Cultivons notre jardin.
Et alors Jackie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Il me semble une importante information.
Cultivons notre jardin.
Alors pour faire une plantation correcte,
cultivons notre jardin.
Ça foisonne, ça foisonne.
Nat et Jackie.
Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Salut Jackie, comment vas-tu ?
Eh bien, ça va pas trop mal. On est dans l'hiver, donc peut-être que certains auditeurs ont remarqué qu'on est un petit peu gelé, qu'on est un petit peu moins efficace que d'habitude. Mais on est toujours présent et content de se retrouver.
Alors, comme il fait un peu frais, on va pas trop gambader avec Jackie. Là, on est plutôt au coin du feu pour ne rien vous cacher. Mais pour cette petite émission, ce sera bien au chaud. Hein, qu'est-ce que tu en penses ?
Eh bien oui, il y a des bûches dans la cheminée. On a bien déjeuné. Donc maintenant, on est prêt à parler de sujets. Alors aujourd'hui, un petit peu qui nous passionnent aussi, mais qui nous fâche un peu aussi. Qui nous embête bien. Mais je crois qu'on s'est donné comme objectif de parler un petit peu de tout, y compris des choses qui nous embêtent, ou en tout cas, ce qu'on voudrait essayer, c'est de vous faire réfléchir à des choses qui existent.
C'est ça, et au coin du feu, c'est parfait pour évoquer notre sujet, qui est celui, malheureusement, du réchauffement et du dérèglement climatique.
Voilà, c'est ça, et on va essayer de s'appuyer sur, c'est un petit peu à la mode là, hein, puisque la COP26 s'est appuyée là-dessus, et c'est sur le dernier rapport du GIEC qui date effectivement de cette année.
Alors GIEC, c'est pas très très joli comme mot. Ce que j'aimerais moi, c'est peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est le GIEC, à quoi ça sert et combien de fois ça fait des rapports, tout ça quoi.
Eh bien, hein? Je te donne la parole.
Merci, Jackie.
Tu as des chiffres?
J'ai quelques chiffres, mais je vais commencer par juste vous expliquer. Donc, le GIEC, c'est quoi? Le GIEC, ça rassemble en fait des climatologues du monde entier. Ces gens-là font un travail rigoureux pendant des années. Ils vont potasser toutes les recherches disponibles sur le changement climatique. Et tous les 7 ans, ils vont nous pondre un rapport.
Voilà,
c'est ça. Hein.
GIEC, pour reprendre exactement les lettres, hein, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et si on met toutes les premières lettres, ça fait GIEC.
Voilà. Et donc, dans ce dernier rapport, le GIEC nous indique plusieurs scénarios possibles en fonction de la progression de nos émissions de CO2 d'ici la fin du siècle.
Voilà, alors donc il y a tout un bilan qui a été fait avec des nuances, parce que en fait il faut envisager plusieurs éventualités. C'est ce qu'on peut voir dans ce rapport, hein, ou bien on réagit tout de suite et puis ça peut être relativement réduit comme conséquence, ou bien on n'agit pas et puis c'est un petit peu ça les termes du rapport.
Ouais, parce que le temps on ne l'a pas là en fait.
Voilà,
on ne l'a plus.
On ne l'a plus, on est le nez dans le mur, mais le nez dans le mur pour certains, et on a l'impression que d'autres ne s'en rendent toujours pas compte. Le problème, c'est que c'est un petit peu cela qui dirige.
C'est ça, au niveau politique, effectivement, c'est là qu'on aimerait un petit peu voir les choses bouger. Or, c'est pas trop dans l'air du temps. Mais on va quand même revenir sur ces scénarios qui ont été proposés par le GIEC. Hein. Donc l'idée c'est pas de nous affoler, hein, c'est pas ni de nous culpabiliser. L'idée c'est de faire des projections à partir des données qui existent et en fonction de l'évolution de nos comportements. Et il faut bien dire que l'évolution de nos comportements, elle est pas flagrante depuis quelques temps, ce qui aurait été bien depuis le dernier rapport du GIEC il y a 7 ans. Mais or il se trouve que ça n'a pas foncièrement changé. Hein, nos émissions de CO2 continuent d'augmenter, de méthane, etc. Donc voilà, on va essayer de regarder d'un petit peu plus près en quoi ça consiste concrètement pour nous demain. Qu'est-ce qui peut se passer par rapport à cette évolution du climat ? Qu'est-ce que tu en dis, Jackie ?
Eh oui, surtout si on n'y fait pas grand-chose, puisque maintenant, quand même, grâce à l'avancée des connaissances sur le climat et des données disponibles, hein, eh bien, aujourd'hui, le GIEC a désigné cette fois-ci l'influence de l'homme sur le réchauffement climatique et de la planète comme sans équivoque. Hein. Jusque-là, on se disait c'est peut-être l'homme. Là, maintenant, grâce à l'analyse de ces experts, on sait que c'est effectivement les augmentations observées des concentrations de gaz à effet de serre, par exemple, sont sans équivoque causées par les activités humaine.
Donc tous responsables, tous coupables, mince.
Mais oui, mais justement, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas non plus tous être inactifs devant. Et au moins, notre idée, c'est de diffuser l'information qu'on n'a pas obligatoirement facilement sur tous les médias. Mm. Et puis, avec ce moyen de la radio, d'essayer de faire réfléchir les uns et les autres, comme nous-mêmes, Nat et moi, on réfléchit et on est assez inquiets.
Voilà, on essaye en tout cas de se poser des questions et de faire des choses. Ça, c'est important. Donc, dans les scénarii qui sont proposés par le GIEC, on a plusieurs... il y a une gradation, évidemment. Dans le pire scénario, c'est-à-dire celui où on n'intervient pas, où on laisse les choses continuer comme ça, on a une température qui augmentera de 5 à 7 degrés avec un niveau des mers qui va monter de 25 mètres, une forêt entièrement remplacée par la savane. Donc, vraiment, le pire scénario est assez monstrueux en termes de destruction au niveau planétaire. Le plus optimiste étant quand même très loin des prévisions quand même réalistes, le scénario le plus optimiste, il nous prévoit quand même des canicules, des précipitations extrêmes, des sécheresses, tout ça décuplé par rapport à ce qu'on commence à entrevoir aujourd'hui.
Et pourtant, déjà, aujourd'hui, on ne peut plus dire que les effets de changement du climat comme ça, c'est une affaire de zozo ou de contestataire toujours. On le voit bien. On est très loin du ministre qui pensait que, de toute façon, c'était de la foutaise. Maintenant, il faudrait peut-être commencer à écouter les experts, puisque... on se rend compte que ça y est, tout à chacun peut se rendre compte des différences de temps, l'hiver, l'été, les sécheresses, les abondances de pluie, les abondances de neige, et que ce soit chez nous ou que ce soit dans le monde. J'y mettrais même tous les incendies qu'on a pu voir, etc.
Ah oui, l'Australie connaît bien, ouais.
Donc tout ça, ce sont les conséquences.
Les conséquences de nos fonctionnements et de notre productivisme.
Absolument.
Ouais. On est bien d'accord. Alors, dans le scénario le plus optimiste du GIEC, on aurait une augmentation de 1,5 degré de la température d'ici 2040. Donc, ça a l'air de rien comme ça, 1,5 degré. Pour vous donner une petite idée, donc 2040, c'est demain, c'est dans 10 ans, 18 ans.
Voilà,
c'est demain. Si on augmente la température de 1,5 degré, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça veut dire qu'on va atteindre, ça c'est la première fois, je crois qu'on en parle dans les rapports du GIEC, des points de basculement. Qu'est-ce que c'est ces points de basculement? Ça, c'est important à comprendre. Ce sont des seuils de non-retour, en fait, à partir desquels l'équilibre des systèmes se brise et où les conséquences, bien sûr, arrivent en chaîne. Et à ce stade, il n'est plus du tout possible de stopper le processus une fois qu'il est enclenché. Donc ces points de basculement, par exemple, au-delà de 1,5 degré, on en a un qui peut être très représentatif, au-delà de 1,5 degré, la calotte glaciaire risque de se décrocher complètement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'eau douce va se déverser dans les océans, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont bien les océans qui créent les courants océaniques et qui déterminent les climats. Par exemple, les courants océaniques déterminent le climat de la zone amazonienne. Donc, si la calotte glaciaire se décroche, l'eau douce déversée dans les océans va perturber les courants océaniques, puis qui vont eux-mêmes perturber, le climat de la zone amazonienne, ce qui veut dire que la forêt amazonienne, à son tour, va être perturbée. Elle va se transformer en savane, les arbres n'auront plus de quoi vivre, ils vont être remplacés par de la savane qui absorbera beaucoup moins de CO2 que les arbres. Parce que la savane, c'est une terre rase, c'est un peu nos cosses, si vous voyez. Donc il n'y a pas vraiment suffisamment d'arbres pour pouvoir absorber le CO2. Donc ça veut dire que sans la forêt amazonienne, les températures vont continuer de grimper, forcément.
Forcément, oui.
Donc si les températures continuent de grimper, d'autres glaciers vont se décrocher, etc., etc., etc.
On est dans un cercle vicieux, là, complètement, complètement vicieux. Il faut quand même savoir que depuis 1900, par exemple, le niveau de la mer, il a déjà augmenté de 20 cm.
Oui.
Et donc, pour donner une idée, on pourrait connaître une autre augmentation de 20 cm en plus d'ici à 2050. Et là encore, 2050, c'est... On n'est pas loin, et puis on pourrait avoir jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'un mètre, ce n'est pas dans une piscine. Hein, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des millions d'hectares de terre qui vont être submergées. Oui. Et donc des habitations qui sont souvent en bord de mer parce que des peuples pauvres, pêcheurs, etc., etc., risquent vraiment de se retrouver sans rien. C'est pas une mince affaire.
C'est pas une mince affaire. Ça veut dire des réfugiés climatiques, ça, quand même. Hein,
voilà, hein, parce qu'on peut le dire, par exemple, donc toujours le GIEC, hein, dans son dernier rapport, il met bien en évidence que les territoires d'outre-mer et plus globalement les îles sont les premiers touchés par cette montée des eaux. Les villes, à faible altitude, comme Lagos au Nigeria, pourraient devenir totalement inhabitables d'ici 2100. Eh bien, c'est ainsi que les communautés côtières connaîtront une multiplication. Il va y avoir des invasions d'eau salée, des inondations, des dégâts causés aux infrastructures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces pauvres qui sont dans ces pays-là, en fait, ils vont être obligés de devenir des immigrés. Ils n'auront plus de terre.
Comment
ce qui
faire?
Veut dire quand même qu'on a des États là, qui... pour l'instant, essaye de caracoler en tête au niveau de l'extrême droite et de râler après les immigrés, etc., qui pourraient justement avoir une politique qui soit un peu plus en faveur de l'environnement et non, ne faisant pas cette politique, eh bien, fatalement, on va avoir plus d'immigrés qui vont venir. Et où est-ce qu'elle est la cohérence chez ces politiques-là? Ce serait bien qu'ils se posent la question et qu'on se pose, nous aussi, cette question.
Donc, ce que tu conseilles, Jackie, à tous ces gens d'extrême droite, c'est au lieu de se prendre la tête avec les éventuels migrants qui pourraient arriver, commencer à réfléchir très sérieusement aux problèmes écologiques, parce que ce n'est pas un qui va arriver de migrants. Les réfugiés climatiques, c'est quand même une autre mesure. Donc que ces gens-là ne s'en préoccupent pas, c'est quand même finalement assez drôle et ça n'a aucun sens.
La réflexion, elle doit être en amont et pas en aval. Hein. Donc voilà, qu'on aille jusqu'au bout de ses pensées, qu'on se demande pourquoi ces gens-là sont contraints d'arriver ici.
Bien sûr.
Hein. Quand on les voit crever de froid, c'est quand même pas un choix délibéré. Hein. Et ils viennent pas sur la Côte d'Azur. Donc voilà, pour moi, oui, cette notion de politique responsable, je parle pas que des gens d'extrême droite d'ailleurs, hein, parce que on se rend compte que la droite maintenant va quasiment jusqu'à la gauche. Hein. Donc il faudrait se poser ces vraies questions. Et tant qu'on n'aura pas une politique drastique vis-à-vis de cette protection de l'environnement, eh bien on continue à s'exposer et après on va râler à cause des conséquences d'un monde qu'on aura créé.
Exactement.
Voilà, c'est ma réflexion.
Merci Jackie. Donc vous avez bien compris, il ne s'agit pas d'un problème de météo, il ne s'agit pas de se dire qu'on va avoir trop chaud dans nos villes l'été, c'est pas du tout ça en fait. Hein. Même dans le scénario le plus optimiste, on est en phase d'atteindre un de ces points de basculement. On en est là malheureusement.
Alors maintenant on va embrayer sur quoi? Qu'est-ce que tu vas nous dire maintenant à propos toujours de ces conclusions du GIEC?
Mais alors il y a un chiffre que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est pour avoir une chance de rester sous les 1,5 degré d'augmentation des températures. Qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait de baisser de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030. Ça, c'est le premier scénario le plus optimiste proposé par le GIEC. Donc, d'ici 2030, on baisse de 55% nos émissions de CO2. Donc, c'est énorme, en fait.
Oui, c'est pas évident à faire. Hein.
C'est pas évident, ça implique un changement de vie conséquent. Alors, c'est marrant parce que le programme des Nations Unies, lui, de son côté, il réfléchit aussi à réduire ses émissions de CO2. Et donc, alors, par contre, eux, leur chiffre, on n'est pas à 55%. Eux, ce qu'ils visent, c'est plutôt une réduction de 7,5%.
Chercher l'erreur.
Donc, ridicule, on ne fera rien avec ça. Donc, avec une réduction de 7,5%, on tombe dans le scénario 3 du GIEC, à savoir une augmentation d'ici la fin du siècle de 2,7 degrés. Et là, ce n'est pas un point de basculement qu'on aura franchi, mais plusieurs.
Triste constat.
Heureusement, il y a la COP26 qui a eu lieu aussi, Jackie.
Oui. C'est ce que je viens de dire.
On aurait des petits trucs à dire sur la COP26 aussi. Alors, j'ai une petite info de Mediapart qui est quand même... qui démontre bien ce qui se passe effectivement depuis quelques années. Donc sur notre dernière COP26, là c'était quoi? C'était en septembre, octobre, je ne sais plus.
Oui,
c'était là, à l'automne.
En Écosse.
Voilà. Eh bien, il se trouve que dans les personnes présentes, dans les représentants présents, on a dénombré plus de lobbyistes des énergies fossiles, Total et ses amis en fait, hein, que de représentants des 8 pays les plus touchés par le changement climatique. Donc, grosso modo, la COP26 ouvre grand les portes aux lobbyistes des énergies fossiles et les pays, eux, qui sont déjà touchés par le dérèglement climatique, finalement, leur voix est dépassée par celle des entreprises.
Eh bien oui, bien sûr.
Voilà.
Qui favorise justement tous ces problèmes, tous ces soucis. On a bien vu tout un tas de choses hein, au niveau de la COP26, justement dans les équilibres et surtout dans les déséquilibres. Tout le monde a pu noter aussi que quand même, à notre époque, eh ben, quelqu'un qui était en fauteuil roulant, une ministre comme ça, ne pouvait, ministre israélienne, je crois, ne pouvait même pas rentrer dans les bâtiments.
C'est ça.
Où est-ce qu'on en est, quoi? Regarde dans l'œil du voisin, mais surtout, ne vois pas la poutre qu'il y a dans la tienne, quoi. Bon, donc effectivement, tout ça, ce sont quand même des constats alarmants et où on se rend compte quand même que la politique, c'est pas les scientifiques, quoi. Et pourtant, elle devrait s'en inspirer beaucoup plus, me semble-t-il.
Ouais. Alors c'est vrai que là, en 30 ans de COP, c'est la première fois que le rapport mentionnait les énergies fossiles. Et heureusement qu'ils étaient là, les lobbyistes, hein, parce que tu l'as vu ça, Jackie?
Oui. on a
eu chaud quand même. Hein. Du coup, ils ont fait rectifier le rapport juste avant la clôture. C'est nickel. Par exemple, sur la phrase la sortie de la production de charbon a été remplacée par la diminution de la production de charbon. Donc la COP26 avait prévu une sortie de la production de charbon. Finalement, on réécrit une diminution. Ok, diminution à quel niveau? On ne sait pas. Peu importe, on n'en sortira pas tout de suite. Pareil pour le financement des entreprises qui travaillent sur les énergies fossiles. La COP26 prévoyait également dans son rapport une sortie des financements aux énergies fossiles. Bon, ben finalement, le travail des lobbyistes a payé, puisqu'on ne parle plus de sortie, mais bien de diminution des financements aux énergies fossiles, auquel on a rajouté un critère, c'est les financements les plus inefficaces qui ne seront pas...
qui ne seront pas retenus. Mais
voilà.
Non, mais en plus, c'est vraiment des mots creux, des mots qui ne veulent rien dire. C'est aussi pour ça que le président de la COP26 a commencé son discours de fin, quand même, c'est la première fois que ça arrive, par des excuses par rapport à ce qu'il allait donner comme bilan. Ça en dit long, quoi.
Ça en dit long, effectivement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On compte sur les autres? On fait comment, là, Jackie, maintenant?
Je ne sais pas. On peut parler aussi de... on peut parler, par exemple... qu'est-ce que j'avais
T'avais
là?
T'avais des petites données, toi,
sur
aussi,
le méthane.
Sur le GIEC. Oui, bien sûr. Raconte un peu
exemple,
ce que tu as vu sur le méthane.
Sur le méthane. Alors, c'est un constat alarmant, car bien que ce gaz persiste moins longtemps dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone, il a un pouvoir de réchauffement bien supérieur. En effet, il est estimé que sur une période de 20 ans, une tonne de méthane a un pouvoir de réchauffement 84 fois plus élevé qu'une tonne de dioxyde de carbone.
C'est pas rien, hein ?
Les quantités de méthane émises dans l'atmosphère sont d'autant plus alarmantes lorsque l'on sait qu'elles sont responsables chaque année de la mort prématurée quand même de 255 000 personnes.
On le compare au Covid, ce chiffre, ou pas tout de suite?
Non, pas tout de suite,
pas
peut-être.
Tout de suite.
Hein, ça vient. Malheureusement, tous ces morts, ils s'ajoutent. Hein, on ne peut pas...
Sans parler ceux de la pollution atmosphérique,
ça,
etc.
Voilà,
etc.
ça ne fera rien de les comparer. Problème, c'est que ça additionne, comme s'il n'y en avait pas assez. Quand on voit que sur les routes, on va avoir des mesures drastiques pour retirer tout un tas de points de permis de conduire. Là, c'est une petite attaque personnelle.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Pour qu'il y ait... 500 morts de moins, mais qu'on laisse ces centaines de milliers de morts là comme ça sans soulever le petit doigt, il y aurait bien quelque chose à dire. Je vais essayer de finir un petit peu sur le méthane là, pour vous donner encore quelques chiffres, simplement parce que c'est des données qu'on n'a pas obligatoirement nous, et pour une fois qu'on a des spécialistes qui ont étudié ça et qui ont donné des vrais chiffres, et ben j'aimerais bien le partager avec les auditeurs. Comme ça, bien que 40% des émissions de méthane soient naturelles, hein, donc ça,
c'est pas celle-là qui pose problème.
Voilà. Le reste, les 60%, est émis par les activités humaines, plus précisément, les émissions de méthane sont issues de l'activité, alors genre l'élevage de bétail, la combustion de la biomasse, les biocarburants, attention, c'est pas obligatoirement que du bon,
ouais.
Les décharges et les déchets, la production en général, le transport et l'utilisation des énergies fossiles. Donc comme quoi on se rend compte que le problème n'est pas simple, on est au milieu de tout ça. Et tant qu'on n'entend pas parler d'un petit peu de réduction, c'est là où ça paraît quand même un petit peu fou. Tout ça, on a l'impression que c'est des choses dont on a besoin. Et on va parler qu'on va encore avoir de plus en plus de besoins qu'on va créer.
Ah,
la
oui,
politique
oui.
va dans ce sens-là, alors qu'elle serait bien un petit peu sur l'économie de tout ça, me semble-t-il. Mon petit coup de gueule.
On va couper un petit peu avant de passer à la deuxième partie de l'émission qui va être plus, un petit peu plus optimiste. On va essayer de trouver de vous donner des pistes de réflexion en tout cas. Et pour l'instant, on fait une petite pause musicale avec les Poppies qui nous chantent non, rien n'a changé.
Comme si c'était vrai.
Comme si c'était vrai, mais pas du tout.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Non, rien n'a changé, tout a continué. Entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps.
Que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en être ce soir ou demain. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Voici avec Jackie. Non, rien n'a changé, mais quand même, on va se poser un petit peu des questions. Et qu'est-ce qui pourrait se passer si on changeait les choses?
Voilà, parce que c'est bien beau de faire un constat aussi alarmiste, hein, comme on vous a fait. L'idée, c'est pas de donner le bourdon à chacun, mais c'est au moins d'essayer de partager un bilan qui a été élaboré par des gens qui en sont spécialistes. Et à partir de ce bilan, eh ben, maintenant, on va peut-être essayer dans la deuxième partie de l'émission de se dire... Et si on pouvait encore y changer quelque chose, en tout cas, si on pouvait ne pas précipiter tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, il ne s'agit pas de vous précipiter dans votre grande surface pour acheter des produits bio, hein, on est bien d'accord?
Non,
il ne va pas s'agir de ça. Juste pour revenir, tous les scénarios qui sont proposés par le GIEC, ils présupposent un marché pleinement fonctionnel et concurrentiel, évidemment.
Évidemment.
Comme la société dans laquelle nous vivons. ici en France, évidemment. Donc un cadre capitaliste avec pour moteur le profit, l'obsolescence programmée, l'hyperconsommation, les besoins créés à grands coups de publicité, on est là-dedans.
Oui, mais on a dit qu'on allait être un peu plus optimiste. Alors moi,
oui,
je...
non, mais on est là-dedans dans... on est là-dedans dans les scénarios du GIEC.
Voilà.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour sortir justement
on peut quand même,
ça, quoi.
On peut quand même essayer d'avoir des actions personnelles hein, qui pourront aider.
Ben oui.
Il existe des solutions que vous pouvez adopter dans votre vie quotidienne pour réduire votre impact personnel sur l'environnement.
Oui.
Par exemple, si vous optez pour un fournisseur vert, en optant pour un fournisseur vert d'énergie 100% renouvelable, on va participer à un monde plus vert tout en économisant sur nos factures d'électricité.
Et plus il y aura de gens qui se tourneront vers ce type de fournisseur d'électricité, plus les fournisseurs d'électricité se creuseront la tête pour aller vers les énergies renouvelables, évidemment.
Évidemment, c'est déjà ce qui se passe avec EDF. Hein.
Voilà.
Ils ont bien compris. Hein.
Ils ont compris qu'ils étaient un peu obligés.
Eh bien, ils sont obligés parce que, de toute façon, ce sont aussi des commerçants. Alors,
moi,
je dirais
que
vous pouvez aussi adopter le recyclage.
Oui.
Hein, recyclage, je sais que Nat, tu vas pouvoir nous en parler aussi ton domaine. Mais là, on peut donner une seconde vie aux déchets. Eh bien, c'est vraiment une activation de la transition écologique.
Ben, c'est pas rien. Là. Puis en plus... on est encore une fois à l'approche des fêtes de Noël, donc avec cette opulence de cadeaux, de nourriture, de machin. Bon, ben c'est le moment de réfléchir, hein, vraiment, ou peut-être on en sera sorti quand cette émission passera. J'espère que vous n'aurez pas de regrets en nous écoutant. Juste, voilà, déjà avant de recycler, l'idée c'est quand même de faire durer ces produits le plus longtemps possible. Voilà, de les réparer. Acheter des produits pas chers, ça coûte très très cher à long terme parce qu'on les rachète tous les 6 mois, tous les ans, etc. Mettre un certain prix dans un objet qui fait qu'on va le conserver 10 ans, 20 ans, voire toute sa vie selon l'objet, c'est quand même pas la même démarche en fait.
Et oui, c'est ce que faisaient nos anciens. Hein. Quand,
oui.
Moi, je me souviens que chez mes grands-parents, les casseroles, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, les casseroles étaient réparées avec des espèces de rustines
oui,
métalliques.
Oui, mettez des patchs.
Et maintenant, il y a des gens qui changent les casseroles tous les 5 ans. C'est incroyable de voir ça. Imaginez que des casseroles pouvaient être usées simplement dans leur fonctionnement, simplement en faisant chauffer de l'eau ou en faisant revenir des pommes de terre ou des choses comme ça, ils étaient tellement usés qu'il y avait des trous et ces trous, on les réparait.
Alors, il y a des gens qui te diront aujourd'hui, Jackie, qu'ils achètent des casseroles parce que pour faire cuire leurs aliments dedans, c'est meilleur pour la santé, tout ça.
Oui.
Sauf qu'à l'époque, on mangeait peut-être pas n'importe quoi, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on avait moins de soucis au niveau de la cuisson.
Peut-être bien.
Un peu moins de cochonnerie
Peut-être un peu moins de cochonnerie, peut-être un peu plus de naturel, ce qui nous permettait aussi d'avoir une meilleure santé. Parce
oui, qu'on
on sait aussi que dans toutes ces maladies qui courent, là, le fait d'aseptiser au maximum tout ce qu'on peut avoir autour, ça va à l'encontre de nos défenses immunitaires naturelles.
Ça aide pas.
Acquérir par rapport justement à toutes ces petites choses. Moi, je me souviens de ma fille à quatre pattes ramassant des trucs par terre sous la table et les mettant à la bouche. On n'imagine même plus ça maintenant. Donc, peut-être que c'était pas si mal que ça avant.
Peut-être, effectivement.
Aussi réduire son empreinte numérique.
On en a parlé plusieurs fois.
Les bonnes décisions, on peut limiter l'empreinte carbone liée à l'utilisation des équipements électroniques.
C'est ça. Pourquoi avoir tous un ordinateur? Enfin, moi, ça me fait bondir, ça, quand même, hein, histoire de... hier, je suis passée dans un magasin d'informatique pour le boulot, hein, et du coup, je regardais, il y avait des portables en vente. Alors, bien sûr, je suis ridicule avec mon portable qui est un vrai téléphone et non pas un ordinateur. Il n'y a rien à moins de 300 euros.
Oui, c'est ça. Et puis quand on pense qu'il y en a qui en ont deux ou trois, qui ont la tablette qui
et
va
vous
avec,
le trouvez où,
qui ont
l'argent
l'ordinateur portable, qui ont l'ordinateur fixe dans la
c'est
maison,
ça, c'est ça.
Qui stockent tout un tas d'informations dont ils n'ont pas besoin. Moi, je le vois aussi avec les... C'est quand même extraordinaire. Alors oui, je suis un vieux de la vieille, mais quand je vois qu'il y a des gens qui ont des milliers de photos sur leur appareil téléphonique. Il y a des data centers pour ça. Hein, on relie jamais ces choses-là.
Et oui, mais des data centers, il faut en construire fur et à mesure que ces matériaux évoluent, au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de matériel électronique informatique. On construit des data centers. Voilà. C'est quoi un data center ? C'est une espèce de grosse usine à conserver vos données qui va consommer un maximum d'énergie et pour conserver
ça,
vos données.
Et tout ça pour avoir les photos du chien de la voisine en 8 exemplaires qu'on ne regarde plus parce qu'on l'a pris sur le coup.
C'est
Mais tout ça, ça se stocke après. Mais tout ça, c'est de la vigilance.
Oui, et c'est important que vous ayez conscience, que tout le monde ait conscience que tout ça n'est pas anodin. Un mail, une photo numérique, tout ça sont des choses qui vont être stockées à des endroits. C'est important de le savoir, d'en avoir conscience, juste.
Alors moi, je dirais aussi que vous pouviez privilégier les transports écologiques.
Ah oui, sur le transport,
alors,
oui.
Plus ou moins écologiques, mais pour moi, c'est déjà écologique de prendre un transport en commun plutôt que 5 ou 10 voitures.
Oui. Hein, donc, ou de se regrouper dans une voiture.
Voilà, se regrouper, tout ça, ça a un sens écologique.
Oui, hein. Vraiment.
C'est pas parce que ça va polluer par rapport à, effectivement, le carburant consommé, etc. Il n'empêche qu'on va peut-être en consommer 2 fois, 3 fois moins. Et bien, rien que ça, on va dans le bon sens, hein, que chacun prenne conscience de ça.
Je voudrais juste revenir sur une mesure qui vient de passer, là, face à l'augmentation du coût des carburants. En France, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on donne un chèque de 100 euros aux gens pour qu'ils puissent payer leur carburant. Voilà. Oui. On ne leur dit pas. Essayez de réfléchir à votre façon de vous déplacer. Et essayez de trouver d'autres solutions. Non, on ne leur dit pas ça. On leur donne 100 euros en leur disant c'est bon, continuez.
C'est bon, continuez à acheter, continuez à consommer.
Parce que c'est comme ça qu'on tient.
Voilà, c'est comme ça qu'on tient. C'est comme ça aussi qu'on paye tout un tas de taxes dessus. Je viens de faire rentrer du fuel. Il est quand même à 1 euro le litre. Oui, alors soi-disant on va me donner un chèque, mais moi je m'en fous, c'est pas
ça. De toute façon, ça couvrira pas.
Ça couvrira pas, c'est une fois simplement pour pas que les gens descendent dans la rue.
Voilà.
Et puis le mois d'après, on va se retrouver devant le même problème, parce que de toute façon, consommer, il y a une certaine partie des choses qu'on est obligé de consommer quand même, ou parce qu'on va pas tous vivre dans des grottes comme des ermites, qu'on ait comme réflexe de faire semblant de donner de l'argent au lieu de réduire un petit peu les taxes qui sont assujetties là-dessus, on peut dire que c'est une certaine idée de la politique qui ne correspond pas à la mienne.
On peut dire ça. Et puis voilà, quand on se pose la question du coût environnemental d'une maison, par exemple, avec l'énergie qu'elle consomme, tout ça, et qu'on ne se pose pas la question, on a un nombre de maisons incalculables en France complètement inhabitées, et on continue de construire du lotissement neuf, de la petite maison neuve. Est-ce que ça, c'est cohérent, écologiquement parlant ? À quel moment ça l'est, quoi ? Avec des matériaux qui... Demain, une maison qui a 200 ans s'écroule, qu'est-ce qu'on va trouver par terre ? Des pierres ? Allez, un peu de peinture ?
Oui, un peu de peinture, peut-être même un peu de peinture au plomb.
Oui, bon, avec un peu de chance, bien sûr. Mais globalement, environnementalement parlant.
Globalement, par rapport à ce qu'on va pouvoir trouver par rapport à une maison moderne, c'est peanuts. Hein,
on est d'accord.
On est bien clair.
Donc, en fait, la réflexion, elle devrait être à tous les niveaux. C'est-à-dire comment je me déplace, comment j'habite, comment je mange, comment je vis, quels sont mes loisirs. C'est tout. C'est tout ça, quoi.
Voilà.
Je veux dire, moi, j'ai pris l'avion, je ne vais pas dire le contraire. Demain... Enfin, je ne suis pas sûre de le reprendre un jour dans ma vie, tout simplement, parce que je me dis non, là, maintenant, il y a un moment donné, il faut aussi se dire stop, quoi, à certaines choses, quoi.
Ça s'appelle la prise de conscience.
Ouais.
Et bien, effectivement, on vit sur cette terre. Pour ceux qui ont fait des enfants, on a quand même investi quelque chose sur cette terre. On devrait pouvoir essayer d'agir, en tout cas, pour arrêter ce déclin, quoi. Voilà. Après, bonne chance à tous.
Bonne chance à tous. Et c'est vrai que là, on avance vraiment dans l'ère du numérique. Hein. On le voit de plus en plus. Et on l'a vu avec la crise du Covid, en fait. On a vu toutes les livraisons à domicile, tous les secteurs, en fait, qu'on vient de citer. ont été touchés négativement, on va dire, par rapport à cette crise du Covid. À savoir, ben, les restaurants sont fermés, donc on fait des livraisons. Non, les gens ne viennent pas chercher sur place. On va plutôt envoyer le livreur se balader un petit peu partout. Donc là, on rajoute du transport, alors que peut-être que descendre de chez soi, c'était pas si compliqué d'y aller à pied en ville.
Absolument.
Par exemple, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Eh ben, tout un tas de choses où on va supprimer des gens au profit de matériel électronique. Voilà, chez Decathlon, on n'a plus qu'une seule caissière pour 30 caisses, je crois, aujourd'hui, ou qu'un seul caissier pour 30 caisses. Alors, bien sûr, ce n'est pas des postes qui font rêver, mais enfin, quand même, il y a peut-être des gens qui en avaient besoin pour bouffer de ces postes-là, quelque part.
Ça aussi, on peut avoir une action. Hein. Moi, je l'avais fait comme expérience à Rodez, hein, qui n'est pas loin d'ici, où un jour, je me suis retrouvé comme ça et où la dame m'a dit, bah, les caisses, c'est là. Moi, si c'est comme ça, je laisse tout là. Et bien, bizarrement, elle a pris mes affaires et elle me les a encaissées. Et à la suite de quoi, je lui ai dit, vous savez, en faisant ça, moi, j'essaye de préserver vos emplois. Je suis effaré de voir à l'Hyper-U à Mende le nombre de personnes qui utilisent des automates pour sortir d'un magasin, soi-disant pour aller plus vite, alors qu'ils ont pu passer trois quarts d'heure dans le magasin, mais ils vont pas attendre cinq minutes à la caisse.
Et tout ça,
on le sait quand même avec le nombre de chômeurs qu'on a, avec les problèmes qu'on peut avoir dans l'éducation, où maintenant on redouble plus, etc. Alors on peut me dire que je mélange les problèmes, mais sauf que je crois que tout est lié.
Pas,
et qu'en fait, des postes comme ça qui demandent pas non plus un certain niveau d'études, c'est utile dans une société. Et les caissières et les caissiers, moi, c'est des gens que j'admire un peu parce qu'ils sont là pour faire un travail qui n'est pas terrible. Mais j'ai connu ça aussi, hein, de faire du béton derrière une bétonnière, c'est pas terrible non plus. Mais au moins, on a un travail, on a un salaire, ce qui veut dire une indépendance, ce qui veut dire une vie à soi. Et c'est peut-être un petit peu tout ça qu'on balaye d'un revers de manche quand on va soi-même faire le travail qui pourrait être fait par une autre personne.
Et oui, tout simplement.
Bon, on est toujours pas très positif. Hein.
On n'y arrivera pas. Alors tout à l'heure, Jackie, tu parlais du recyclage des produits. Donc effectivement, à Mende, on a une ressourcerie. Il y en a un petit peu partout en France quand même. Ça, c'est pas un problème. Normalement, tout le monde en a une à côté de chez soi. Bon voilà, le nombre de personnes, moi, que je vois passer à la déchetterie casser les meubles pour qu'ils ne soient pas récupérés, s'il vous plaît. il y a un moment donné, il faut arrêter ce genre de comportement. Si vous trouvez personne à qui les donner, vos meubles, vous les mettez à la ressourcerie, mais surtout, vous ne les cassez pas pour qu'ils ne soient pas utilisés. Enfin, ça, c'est quand même, moi, ça me fait bondir. Voilà, des ressourceries, vous en avez un petit peu partout en France. C'est pratique si vous avez besoin de vous meubler pour pas cher. C'est pratique pour les gens qui aiment bien restaurer, retaper des trucs. Et c'est aussi pratique pour vous débarrasser des objets dont vous ne vous servez plus.
Et c'est pratique pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Parce qu'il y a la ressourcerie, comme il y a Emmaüs, comme il y a le secours populaire. Hein. On n'est pas sectaire dans ce genre de choses. Il y a, selon ses opinions, il y a différents endroits où on peut mettre ça. Mais de grâce, il y a quand même des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. On ne peut pas se dire qu'il y a 9,5 millions de personnes en France en dessous du seuil de pauvreté et ne pas y penser. Enfin, ça me paraît évident. Donc, pensez aux autres, recyclez. Si vous avez les moyens de changer, ben, très très bien. On va pas vous en vouloir. Mais par contre, si vous pouvez faire profiter de ce qui ne vous sert pas aux autres, eh bien, il faut pas hésiter. On doit la construire cette société d'entraide quand même. Hein. On est tous sur le même bateau. Bon, tout ça, ce sont voilà. On n'a pas obligatoirement les réponses, hein, mais on a les questions.
Ça, vous pouvez nous faire confiance avec Jackie, on en a plein des questions. C'est exactement voilà. Ça. Mais bon, il y a des petites choses à faire dans votre quotidien. Voilà, réfléchissez à vos fonctionnements, voyez ce que vous pouvez changer. On en est tous au, on en est tous là. Hein. Moi, je fais des trucs loin d'être parfait. Je crois, Jackie, que toi aussi, tu es super loin d'être parfait. Oui. Mais on essaye, on réfléchit. Et voilà. Et finalement, c'est ça qui est important.
Oui, oui, c'est pas d'être parfait surtout. C'est pas de se demander si notre brosse à dents doit être électrique ou pas. Etc.
Ah, surtout pas.
C'est non, mais c'est parce qu'après, on va aussi. L'idée, c'est pas de se culpabiliser.
Ben non.
C'est pas de se trouver mieux que les autres parce que nous, on a abandonné la brosse à dents électrique ou un truc comme ça. Mais c'est dans sa vie, essayer de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais moi dans ce monde-là? Je suis victime de tout un tas de choses, mais je suis aussi créateur de tout un tas de choses potentiellement. Quelle est ma place là-dedans? Ben, c'est celle que je fais.
Et puis toujours pareil dans nos fonctionnements, qu'est-ce que j'ai à gagner à me comporter comme ça et qu'est-ce que je gagnerais si plutôt je me comportais comme ça? Voilà, prendre le temps d'y réfléchir, c'est pas inintéressant.
Voilà, et ben on va quand même là-dessus essayer de vous présenter quelques petits trucs au calendrier des activités.
Oui, alors il y a pas grand-chose parce qu'il fait un petit peu frais dans le coin, donc donc c'est très très calme. Hein.
Voilà.
Mais ça va venir. Hein, mais nous, on ressortira que quand il fera un peu plus chaud. Jackie, voilà. Moi, j'attends que les températures elles soient au-dessus de 5 degrés, d'accord?
D'accord, on fera comme ça. En attendant, eh ben je crois que ce sera au chaud puisque c'est à la salle de Jean Jaurès à Mende. Le samedi 22 à partir de 14h.
Elle est chauffée par le réseau de chaleur.
Le samedi 22 janvier, hein, pardon, parce que selon le... Donc elle sera chaude. À 14h, il y a l'Assemblée Générale de Jardin Nature 48.
Ah, très très important.
Voilà, donc n'hésitez pas à y aller, à voir. Je pense que vous aurez des bons contacts. C'est là où on peut voir aussi s'il y a des trocs de graines, de plantes, de conseils, de choses comme ça pour le jardin. N'hésitez pas, prenez contact. C'est obligatoirement un moment sympathique hein, puisque c'est autour du jardin. Samedi 22 janvier à la salle Jean Jaurès à Mende.
Mais moi, j'aurais même tendance à dire que même si vous n'avez pas de jardin,
oui.
On est d'accord.
Oui,
ça ne concerne pas forcément que les gens qui ont un jardin, cette association Jardin Nature 48.
Oui, vous pouvez très bien aussi avoir un balcon, avoir trois petits pots de plantes.
À l'intérieur.
Des plantes d'appartement.
Exactement.
Des bonsaïs, une vigne que vous ne savez pas trop comment faire, etc. Et de toute façon, c'est un milieu de gens qui sont prêts à s'entraider. Donc, on ne peut qu'adhérer à ce genre de... d'association. En parlant d'association, il y en a une autre qui s'est montée, on vous en a parlé.
Oui, on avait fait une émission spéciale, rappelle-toi, Jackie.
La LPO 48, hein, donc, ouais. Qui est en train d'établir un calendrier. Ça, on vous en parlera parce que je pense que c'est important aussi pour tout ce qui est nature, biodiversité. Ce calendrier est en train de se mettre en place. Dès qu'on en saura plus, vous serez au courant sur nos ondes.
Ouais, et puis après, on pourra nous aussi aller sortir avec les naturalistes là, qui proposeront des sorties. Et voilà, c'est très chouette ces sorties-là, c'est enrichissant. C'est très très enrichissant,
voilà,
humainement parlant et naturellement parlant.
On essaiera de vous emmener dehors pour vous faire comprendre ce qui s'y passe.
On ira se promener, mais quand il fera beau.
Et alors maintenant, il faut trouver une musique de fin.
Oui, ben c'est toi, Jackie, on avait dit. Ah, on avait dit c'était toi, celle-là. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi?
Alors, pour clore cette émission avec un petit peu de gaieté quand même, parce qu'on se rend bien compte qu'on était un petit peu dans la difficulté, je vous propose Simon Garfunkel pour une chanson qui s'appelle Mrs. Robinson.
Coucou, coucou. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt sur les ondes de 48 FM.
Thank you. of yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Debate.